Ambient Memory sur Radio Graphite, l'émission dédiée aux musiques ambiantes. Philippe Hall vous transporte vers un nouveau voyage. Ambient Memory, l'interview.
Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission d'Ambient Memory, l'interview. Ce soir, je reçois un duo du nom de Sphere. Ce sont des artistes des Hauts-de-France. Olivier et Nicolas nous font l'honneur d'être parmi nous dans les studios de Radio Graphite pour nous parler de leur projet. Bonsoir Nicolas, bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Bonsoir Philippe.
Comment allez-vous ?
Tout va bien.
Bon, bah merci en tout cas d'être venu jusqu'au studio de Radio Graphite. Donc vous venez d'assez haut, de Roubaix, je crois, de Lille, si je ne dis pas de bêtises.
Tout à fait, oui.
Eh bien, on va parler justement de votre projet. Donc on avait déjà eu l'occasion d'accueillir justement Olivier avec ton projet Amérique. Tu nous en avais parlé. On avait aussi eu l'immense privilège de pouvoir t'écouter lors d'un petit live que tu avais préparé avec tes modulaires. Mais là, vous revenez en duo. Voilà, parce qu'il y a un petit bonhomme de chemin qui s'est fait. Et du coup, le projet Sphere est né. Donc, justement, est-ce que vous pouvez vous présenter l'un et l'autre et puis voir un petit peu quels ont été justement les chemins, les directions que vous avez pris pour mettre en place ce projet ? Alors, qui commence peut-être
Je vais commencer. Olivier, musicien. Très intéressé par la synthèse sonore, sur analogique, modulaire, et puis aussi sur la synthèse numérique dans les petits logiciels. Alors on s'est rencontré avec Nico il y a 5 ans, je pense, à cause ou grâce au confinement. On a traîné un peu plus sur les réseaux, on s'est croisés. Il y a une convergence des goûts musicaux, des process musicaux, et comme dans la musique électronique, c'est beaucoup d'exercices solitaires. Au fur et à mesure, on s'est dit qu'on pourrait peut-être jouer à deux. Et donc le projet Sphere est né. On a agrégé dessus deux artistes visuels pour lesquels on évoquera un peu leur travail plus tard. Et donc voilà, on a monté le projet qui progresse depuis 2-3 ans. Et on espère que ça va continuer, bien sûr.
Mais je vous le souhaite, c'est ce qu'il faut. Hein. On est là aussi pour ça, pour promouvoir justement ce projet. Puis vous allez bien sûr nous parler de tout ce que vous avez fait, quoi, depuis la création. Et du coup, pour toi, Nicolas, tu es peut-être musicien déjà de base ou...
Tout à fait, musicien, autodidacte, ce qu'on appelle un geek, hein, je pense. Donc je baigne dans le son et on va dire la bidouille, la technologie depuis l'enfance. Et donc, mon appétence, elle est plutôt tournée vers les stations audio numériques et la synthèse, mais aussi les process d'enregistrement. On va dire que l'aspect improvisation et live est né assez peu de temps avant la rencontre avec Olivier, donc c'était plutôt bien tombé.
D'accord, donc c'est le travail de chacun qui ont fait qu'à un moment donné, vous arrivez à fusionner vos travaux, si je puis dire, et du coup de créer peut-être ce projet Sphere.
Exactement, voilà, on a deux approches qui se ressemblent beaucoup, mais qui sont presque différentes. Effectivement, Nicolas dit, lui, il est vraiment sur les stations audio numériques. Donc c'est la synthèse quasiment en fait intégralement sur ordinateur à partir de son réel, hein, quand même en grande partie. Et moi, je fais aussi, mais une grande partie sur des machines électroniques analogiques. Et le fait d'être en duo, ça oblige à écouter, ça oblige à se servir de la matière sonore de l'autre pour jouer dessus. Et donc ça oblige aux échanges. Et je pense que ça marche plutôt bien, c'est-à-dire que ça permet de conserver le meilleur, d'améliorer ce qui doit l'être et puis d'enlever ce qui convient pas à l'autre.
Thank you. Quand tu parlais de son naturel, donc c'est des choses que vous prenez dans la rue, genre hein, comme le field recording, on va enregistrer voilà, des sonorités de la nature, plus industrielles, etc. Ou, enfin, comment ça se passe ? Vous avez déjà des idées précises de lieux, par exemple, où vous allez justement prendre vos sons ?
Alors oui, parce que notre volonté, c'est de faire de la performance dans des sites spécifiques. Donc bah, on prend des sons du site, on adapte la diffusion et les effets à l'endroit où on va jouer. Donc pour l'instant, bah, on a eu quelques lieux de diffusion dans lesquels on a joué. Et Et à chaque fois, c'est une performance unique. On ne joue pas deux fois la même chose, on n'a pas les mêmes ambiances sonores. Et il faut s'adapter. Donc, c'est des sons sur place, quelques sons extérieurs, mais c'est vraiment d'adaptation au site. Et c'est vraiment là-dedans qu'on veut travailler. Et notamment, alors moi, la partie analogique, j'ai quelques sons, comme c'est de la synthèse électronique, qui sont très typés et qui se reproduisent d'un schéma à l'autre. Par contre, Nico, comme il peut récupérer tout ce qui vient de l'extérieur, bah, il apporte une touche un peu plus site spécifique, mais il va vous expliquer.
Justement. Tout à fait. Alors, il y a en effet tous les sons qu'on peut trouver sur place, de manière, on va dire, assez évidente, mais aussi peut-être des fois de manière un peu plus recherchée. Donc, je pense par exemple à ce qu'on ne perçoit pas, donc les choses vraiment microscopiques, les choses invisibles, donc les ondes électromagnétiques, des vibrations qu'on perçoit seulement avec certains types de micros, comme des géophones. Il y a aussi toute la dimension, on va dire, sonification, c'est-à-dire que plus aller être à la recherche de data pour aller justement appliquer des variations donc de synthèse ou de modulation sur des synthés, sur des effets, et donc vraiment d'avoir une dimension assez totale, on va dire, sur comment on va dire l'environnement, le site va influer sur la partition improvisé, mais du coup, chaos contrôlé, on va dire.
D'accord, donc ça serait plus toi qui, en gros, injecterais des sons, et du coup, Olivier arriverait justement un peu à les travailler, à les triturer avec ses modulaires.
Y a, je dirais, un espèce d'aller-retour assez permanent, en fait, étant donné que...
Question-réponse.
Ouais, c'est-à-dire, c'est ça, question-réponse, et puis aussi le fait que, par exemple, Olivier va m'envoyer du MIDI de ses synthés, et je peux lui renvoyer donc du son, une voix, et donc il y a tout ce process comme ça intriqué entre nous qui fait que, au-delà, on va dire, de l'aspect expérientiel, sensible, d'être ensemble, et donc du coup de jouer, donc d'avoir une espèce de communication non verbale dans l'expérience du live, il y a aussi le fait que les machines, les outils sont intriqués les uns avec les autres. Ouais.
D'accord, donc c'est ce qui donne par exemple un événement comme vous avez pu faire Huchon, où justement vous avez joué, donc ce sont deux pistes, enfin deux pièces, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui s'articulent, donc deux mouvements comme un peu de la musique classique où il y a différents mouvements, donc c'est pareil, donc le lieu est inspirant, donc vous êtes imprégné bien sûr, et vous avez pris les sons environnementaux justement de ce lieu pour produire ces morceaux.
L'aspect aussi finalement de comment dire le son comme une matière qu'on peut façonner, sculpter, et donc le simple fait de se savoir en dessous de plusieurs milliers de tonnes d'eau a forcément orienté, on va dire, les choix de texture, d'enveloppe, de comportement des sons autour de l'eau et la molécule physique aussi de l'eau. Je ne sais pas si tu veux...
Alors oui, notre première prestation scénique, c'était dans les réservoirs du Huchon à Roubaix, qui sont des réservoirs qui datent de la fin du 19e siècle. Donc effectivement, le réservoir d'eau, il est au-dessus. Donc on a joué en dessous de l'eau, une grosse cuve. L'architecture a fixé le cadre sonore, les temps de réverb, avec une architecture sonore très curieuse, parce qu'on c'était assez grand en hauteur, on s'attendait à une réverb assez longue, et finalement le réservoir d'eau au-dessus servait d'énormes amortisseurs, et donc il y avait une direction latérale assez réverbérante et vers le haut totalement sec. Donc il a fallu s'adapter. On a fait plusieurs prestations, effectivement on en a retenu deux, c'était dans le cadre des Journées du Patrimoine, et donc on en a retenu deux qui nous semblaient intéressants de communiquer au monde. et donc ce sont des prestations uniques, hein, parce qu'on ne peut pas les refaire, ça dépend de la géométrie de la salle, du feeling du moment, des sons, voilà.
Et d'ailleurs on ne les a pas choisis, c'est le nombre et la durée de ces prestations, en fait elles correspondaient au cadre de l'événement qui consistait à inviter des habitants dans le cadre des Journées du Patrimoine à visiter ce lieu, donc en groupe restreint, avec une petite médiation au préalable, et donc c'était un temps de sieste sonore qui était proposé au public de 20 minutes, donc c'est ce qui a conditionné les lives en tant que tels. Ouais.
Thank you.
de Huchon, et même après de ce que vous faites, est vraiment une partie intégrante de votre projet. Est-ce que vous avez quand même des trames que vous suivez, quand même une trame, et puis après vous improvisez autour, ou comment ça se passe ?
Ah oui, tout à fait. La trame, elle consiste en trois étapes, on va dire. La première, c'est le process d'échange entre nous. Donc Nicolas dit, on s'envoie des sons et on s'envoie de la data, donc soit de la modulation, soit des notes, soit de l'audio. Donc ça, c'est la première étape. On fixe les chemins d'information entre nous pour pouvoir discuter et jouer. Ensuite, on fixe une trame qui, la deuxième étape, c'est la patte sonore, c'est-à-dire qu'en fonction du lieu, on va décider, on fait des choix de synthèse, de son. Donc on part avec une base. Et puis le jour J, après l'installation et puis après une répète, on adapte, parce que le lieu, à chaque fois qu'on a joué, c'était le lieu, on l'a découvert, et puis quelques heures après on a joué. La troisième étape, c'est on s'adapte et on joue en fonction de cette adaptation. Alors le petit jeu consiste à, je crée, on va dire, un environnement harmonique sur les claviers que je transmets à Nico. Et puis lui, il stocke ça pendant que je commence à jouer. C'est un peu la trame. Et puis la surprise, c'est quand il sort ses sons à partir de la petite trame que je lui ai envoyée, ce qui l'oblige à utiliser ce que je lui envoie et ce qui m'oblige, moi, ensuite, à écouter ce qu'il me renvoie pour pouvoir compléter le discours. Et puis on part. Et ça prend du temps.
C'est un exercice qui doit être très facile.
Voilà. En fait, on espère laisser le temps de l'écoute aux spectateurs, c'est-à-dire que c'est pas la prestation normée avec un enchaînement de morceaux toutes les 5 minutes, avec pour chaque 5 minutes un climax, machin. Non, c'est on joue, on laisse du temps. S'il faut mettre 20 minutes dans une transition sonore, on passe 20 minutes. Si plus loin, on veut aller un peu plus vite, on va un peu plus vite. Et c'est vraiment en fonction du lieu, du ressenti. Et donc, il faut venir nous écouter parce que ça n'est pas reproductible deux fois.
Tout à fait. On verra si, j'imagine que vous avez des événements à venir pour cet été peut-être, ou en tout cas pour la rentrée. Alors si on parle en scolaire, la rentrée de septembre, on en parlera après. Après poursuivre, du coup après Huchon, il y a eu, c'était un petit peu un essai, comme un peu la vitrine de l'album Wild, le morceau, où il y a eu un enregistrement, donc pareil, un enregistrement live où il y a justement une impro de mélange technique, analogique, numérique. Donc là, pareil, c'est pareil, une discussion. Enfin, c'est un peu le même schéma que Huchon, j'imagine.
Mm-hmm. Ouais, tout à fait. Encore une fois, c'est venu d'un cadre propice à proposer une expérience sonore plutôt, on va dire, plutôt méditative, d'une expo. Et donc, le nom de l'album et éponyme de l'expo qui a accueilli ces siestes sonores. Donc c'était à la condition publique au mois de mai dernier, donc il y a un an, pour la nuit des arts du printemps, parce qu'il y a deux nuits des arts à Roubaix, celle d'hiver au mois de décembre et celle de printemps au mois de mai. Et donc là, c'était toute une après-midi de siestes sonores, entre 14h et 19h, quelque chose comme ça. Donc il y avait à peu près 6 siestes sonores, quelque chose comme ça. Et donc c'était intéressant d'être en écho de l'expo, de son, on va dire, de son concept et de ses œuvres.
D'accord, donc c'est 6 morceaux différents ou c'est des variantes de Wild que vous avez joué justement?
Alors du coup là c'était du jeu en live, et c'est a posteriori qu'on s'est saisi des enregistrements pour en faire un format.
Alors en fait, ces enregistrements pendant l'expo, on a capté ce qu'on a joué. Après coup, on a été plutôt satisfait du processus et du rendu, et on s'est dit qu'il fallait passer à l'étape suivante, c'est-à-dire retravailler ce processus en studio, parce que quand on est en concert, en direct, c'est très compliqué de faire des captations comme ça. Donc on a retravaillé les morceaux pour en faire une captation propre en studio, ce qui aboutit à l'album Wild. Donc Wild, finalement, c'est une trace studio d'une réinterprétation de ces concerts pendant l'exposition de la Nuit des Arts il y a un an.
Il y a eu la suite, l'album, avec les 8 morceaux, les 8 pistes. Donc collision, contact, convergence, catalyse. Donc c'est, est-ce que c'est voulu tous ces noms en C? Après on passe sur du P, pulse primal. Pursum, je crois, si j'ai bien écrit, j'écris très mal, et prowl,
non. Ouais, alors,
est-ce qu'il y a justement une signification
Oui, et oui, c'est un délire en fait. À la base, le format il est long, mais on s'est dit que, je sais pas, dans un souci un peu de démocratisation, peut-être que, écoutez, de prime abord, un enregistrement ou une pièce de 20 minutes, on n'a peut-être pas toujours le temps. Et donc, voilà. C'est... Et on s'est dit, ce serait pas mal qu'on arrive à découper, on va dire, le gros morceau en plus petits morceaux. Et parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu, hein, des albums d'ambiance qui sont une pièce longue découpée en plusieurs parties.
Ouais, en mouvement.
Alors voilà. Alors le délire, hein, sur les titres des morceaux, c'était que comme c'était à la condition publique, CP, c'était d'avoir trouvé des titres de morceaux qui étaient dans le thème, avec cette petite contrainte de commencer par C pour la première moitié et par P la deuxième moitié. Bon, juste une contrainte de plus créative, parce que c'est toujours chiant de trouver des noms de morceaux.
Et en même temps, cette contrainte de trouver des noms, elle nous a servi pour la suite, parce que au mois de décembre, on a joué dans un tiers-lieu culturel. Il y avait une installation de plein d'artistes, graffeurs, plasticiens. Donc on a fait une performance où on a repris en grande partie tout le process de Wild. Et le fait d'avoir posé des noms sur les petits morceaux nous a permis d'ouvrir la collaboration avec deux vidéastes qui nous accompagnent dans le projet. Et tous ces mots-là ont servi de trame, de scénario sur toutes les vidéos qu'ils ont posées, leur création. Et donc finalement, l'exercice un peu factice de trouver des noms sur des morceaux, c'est pas toujours facile, ça a été vraiment créatif pour la suite. C'est-à-dire qu'ils nous ont fait des choses qui répondent à ces huit mots et qui s'intègrent dans notre musique. Et donc c'était une très bonne idée, mais on ne l'a su qu'après.
Comme souvent, les accidents heureux, c'est après qu'on...
Est-ce qu'il y a aussi d'autres projets à venir dont vous pouvez nous parler après Wild, ou alors là vous êtes vraiment dans un process de le faire découvrir et donc de chercher des événements pour vous produire et surtout faire découvrir Wild?
Alors la recherche d'événements, oui. Alors nous, on est toujours dans la recherche de lieux spécifiques, un peu inédits, que ce soit de la friche industrielle, un lieu historique, parce que, comme on l'a dit au démarrage, on s'intéresse à des performances uniques. Je crois que ça ne nous intéresse pas vraiment si on nous proposait de faire 10 fois de suite le même concert. Je pense qu'il n'y aurait pas d'intérêt sur scène à reproduire 10 fois la même chose. Donc le fait de changer de lieu, ça motive, il faut s'adapter, on a des nouvelles idées. Donc oui, on est en recherche de lieux un peu atypiques et c'est difficile.
Oui, après, ce n'est pas toujours un genre facile à promouvoir, mais après, du coup, ouais, effectivement, s'il y a des lieux propices, des friches industrielles, comme tu disais, ça peut être justement un appel à des programmateurs pour justement vous convier à un événement. Pourquoi pas ? L'appel est lancé, en tout cas.
Et je rajouterais qu'il y a aussi une certaine complicité avec les spectateurs, dans la mesure où l'idée, c'est quand même d'avoir cette expérience partagée autour de l'écoute et donc de quelque part les impliquer dans ce processus parce qu'ils font partie des paramètres du lieu et de l'événement unique. Et donc il y a aussi cette notion de ne pas forcément aborder les choses comme une diffusion de concert, mais plus comme une expérience sonore et humaine finalement. Donc il y a aussi, je pense, un parti pris sur un peu militant, on va dire, sur ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle l'écologie sonore, par exemple, entre autres.
Où est-ce qu'on peut trouver vos différentes productions? Est-ce que sur Bandcamp, j'imagine, mais peut-être sur d'autres supports?
Alors oui, on a diffusé ça à la Média Moderne sur toutes les plateformes.
Mais il faut aller sur Bandcamp.
Mais il faut aller sur Bandcamp parce que c'est un peu plus éthique que d'autres plateformes qui, concrètement, ne rémunèrent vraiment pas beaucoup les artistes et toute la sphère artistique. Donc c'est mieux d'aller sur Bandcamp.
Tout à fait. C'est vrai que par rapport aux artistes, c'est beaucoup plus sympathique, justement. Ils ne sont pas à prendre justement trop d'argent aux artistes. Chacun aussi, est-ce que vous avez des projets solo en parallèle justement de Sphere? Alors, je sais qu'il y avait Amérique et puis Mantôme Noir, je crois.
Mantôme Noir, c'est à nos camarades, c'est pas nous. Mais on peut en parler aussi. Oui, alors moi je suis toujours dans mon projet solo, Amérique, qui oscille entre musique concrète, ambiante, ça dépend du vent qui me porte, des enregistrements que je fais. Je produis beaucoup et puis de temps en temps, je me dis ça, il faudrait le sortir.
Et du coup, pour toi ?
Oui, projet solo aussi. Moi, à la base, je viens plutôt de la scène, anglo-saxonne, années 90-2000, donc hérité de la rave culture, donc tous les genres type drum and bass, jungle, dubstep, two-step, garage, etc. Donc j'ai encore, un pied là-dedans, derrière les platines notamment, avec ma compagne depuis 3 ans. Pareil, j'ai aussi des productions solo, ambiantes, bass, IDM, expérimentales, quoi. Et aussi, des occasions de collaborer avec d'autres disciplines, art plastique, art graphique, art pictural, et donc de donner, une vie a posteriori des expériences, des lives, des projets qui peuvent se construire avec ces artistes-là. Ouais.
D'accord. Après, de toute façon, j'imagine que vous communiquez aussi tous les événements. Enfin, vous devez être sur les réseaux sociaux, j'imagine, Instagram, peut-être Facebook, même si ça s'essouffle un petit peu. Pour tous les deux.
Oui, on a chacun nos petits comptes. Mais bon, la communication dans ce domaine-là, elle est quand même mieux quand elle est entre humains. C'est quand même mieux. Par exemple, venir à une interview en radio.
Venir depuis Roubaix jusqu'à Compiègne, c'est pas mal.
C'est quand même mieux que de faire un petit post sur Instagram ou Facebook.
Tout à fait.
Mais oui, on essaie de jouer le jeu. Après, pas tous les jours. pas toutes les semaines non plus, mais quand il y a quelque chose, on va dire, d'important à partager, on le fait, parce que je pense que c'est obligatoire aujourd'hui de le faire, mais en effet, plus axé sur les rencontres humaines et les expériences. Et donc, voilà, vadrouiller, c'est bien.
Bah écoutez, je vous remercie en tout cas pour cette interview. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter des choses.
Voilà, tu ouvres une grande porte,
ouais,
là.
Oui, oui. Bah, c'est pour ça. Après, si vous avez un coup de gueule à passer, bah, il ne faut pas hésiter.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans nos projets à moyen et long terme? À moyen terme, on a sollicité des résidences d'artistes un peu à l'extérieur des Hauts-de-France pour en fait pouvoir prendre du temps, non seulement sur le côté musique, mais ça, on arrive quand même à le faire parce qu'on est à proximité, mais surtout pour faire une intégration plus grande des deux vidéastes, Vincent et Sandra, parce qu'en fait, on voudra affiner notre processus pour que ce soit vraiment de la création totalement imbriquée. Jusqu'à maintenant, là, ce qu'on a fait pour Wild, bon, on a fait la musique, on a eu des instructions via les titres, il y a une très belle production vidéo, mais on aimerait que ce soit encore plus imbriqué, c'est-à-dire que ce qu'on produit comme data pendant qu'on joue puisse être envoyé à la partie vidéo et puisse influencer là-dessus, et inversement. C'est-à-dire que les choix de diffusion vidéo, en temps réel, nous soient envoyés et qu'on puisse un peu jouer dessus. Et ça, ça passe par un temps ensemble, à quatre, un temps moyen, donc une semaine ou deux, pour se poser, poser les machines, les process, réfléchir et obtenir quelque chose de concret à la fin. Donc ça, c'est rendez-vous dans quelques mois ou semestre.
Oui.
Ouais, ça, c'est le moyen terme.
Oui, d'accord. Et pour toi, Nicolas, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, en règle générale, c'est ça. C'est tout ce qu'on arrive à faire de manière stratifiée aujourd'hui, qu'on arrive à le faire de manière imbriquée et en one-shot les fois d'après. Donc, ça me botte assez bien d'envisager les choses comme ça, où il y aurait cette expérience où on est prêt. Au moment où on ouvre les ordi et qu'on se branche, on est prêt. Et en effet, ça, c'est tout le travail en amont. Ce travail en amont, il nécessite du temps. Et c'est vrai que dans les emplois du temps, on a un boulot, on a des enfants. Donc, c'est vrai que...
Oui, ça prend du temps, de l'énergie, tout ça. En tout cas, je souhaite que ça fonctionne. On rappelle qu'on peut donc se procurer vos différentes productions sur Bandcamp, en tout cas, en ce qui concerne Sphere. Amérique, je pense aussi. Pour toi aussi.
Des Square.
Productions, que ce soit comme tu disais drum and bass, en tout cas dans les genres dans lesquels tu joues, c'est pareil. On peut te trouver sur.
Ouais, c'est ça, sous l'alias de Square. Donc sur les réseaux.
Sur les réseaux et sur Bandcamp, j'imagine.
Ouais, sur Bandcamp aussi.
Très bien. Et je vous remercie en tout cas d'être venu jusqu'à Compiègne, d'avoir pris la route, parce que c'est pas la porte à côté. De toute façon, je mettrai tous les liens Bandcamp sur les réseaux d'Ambient Memory. Et puis je vous remercie encore une fois d'être venu. Et puis on reste informé à l'affût de tout ce que vous allez pouvoir faire, nouveautés musicales et bien entendu événements. Donc voilà, l'appel est lancé aussi. S'il y a des gens qui ont pour projet une salle, une expo, peut-être de faire appel justement au duo Sphere. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à toi, Philippe.
Merci pour l'invitation.
L'émission se termine. J'espère que vous avez apprécié. Retrouvez sur les réseaux d'Ambient Memory tous les liens Bandcamp pour vous procurer les différentes productions des artistes. Dès demain, le podcast sera disponible sur les plateformes d'écoute habituelles. Vous avez pu écouter durant l'interview les morceaux suivants. Extrait de l'album Wild, les morceaux Collision, Contact, Pursuit et extrait de Huchon, le morceau Huchon 1. Je vous donne, quant à moi, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau voyage. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao!
Ambiante Memory sur Radio Graphite.